Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Après le maréchal Masséna, nous évoquons, toujours avec François Mali, une autre figure de la campagne espagnole engagée par Napoléon il y a tout juste 200 ans. Guerre que vous qualifiez, François Mali, de folie espagnole, pour reprendre le titre de votre ouvrage paru aux éditions Talendier. Folie dans laquelle nous allons plonger directement avec le général Fournier-Sarlovez, hussard exalté, surnommé par les Espagnols El Demonio. Le général Fournier, puisqu'en fait Sarlovez, ça sera accordé plus tard par Louis XVIII, est moins connu que bon nombre de maréchaux ou généraux de l'Empire, et pourtant lui seul est devenu un personnage de roman.
Tout à fait. Je pense que beaucoup de Français le connaissent, en fait, mais effectivement, son nom ne dit pas grand-chose. En fait, ils le connaissent peut-être pour avoir lu la formidable nouvelle de Conrad qui s'appelle Le Duel, et qui raconte le duel de deux officiers pendant toutes les guerres de l'Empire. Ils le connaissent peut-être plus sûrement parce qu'ils ont vu le film de Ridley Scott, Les Duellistes, formidable film sur la période impériale, qui raconte évidemment la même histoire. Et c'est Harvey Keitel qui joue le rôle du général Fournier-Sarlovez, ce fou de duel, puisque c'était l'une de ses qualités, ou plutôt de ses défauts, puisque c'est un homme qui s'est battu du début à la fin et qui a tué bon nombre de personnes, civiles ou militaires, parce qu'effectivement, c'était quelqu'un d'assez exalté. Et effectivement, je me suis interrogé dans le livre pour savoir si la psychiatrie militaire avait existé à cette époque-là. Elle n'est née qu'après 1914. Je pense qu'il n'aurait peut-être pas fait partie de l'armée française. Alors,
D'ailleurs, hein ? Il est assez marrant quelque part.
Ah, il est marrant. Il est marrant. D'abord, c'est un surdoué.
Il est presque un peu autiste.
Ah, mais c'est un surdoué. Alors, il est d'abord.
Il est issu d'un milieu modeste.
Hein, fils de cabaretier, de Sarlat. Voilà. Donc. C'est un personnage qui, au départ, doit pas connaître une ascension formidable, mais il est doué en tout. Il est doué en tout, c'est-à-dire qu'il assimile à une vitesse folle tout ce qu'on lui apprend, et notamment le latin, et ça lui sera très précieux en Espagne, puisqu'il donnera tous ses ordres en latin aux curés, qui seront extrêmement surpris qu'un personnage aussi brutal que lui puisse connaître le latin aussi parfaitement. Deuxièmement, c'est un excellent musicien et un excellent chanteur. Bref, toutes ces qualités vont faire qu'il va être remarqué dès son jeune âge et qu'il va pouvoir continuer son éducation dans un collège du sud-ouest de la France. Et donc, il va parfaire son éducation. Mais enfin, il a des grands défauts quand même. Hein. Il est très bagarreur.
Incontrôlable.
Il est effectivement très, très doué pour tout ce qui est petite bagarre avec ses petits camarades. Tant et si bien que... C'est un peu un escroc aussi, il travaille chez un notaire, au bout d'un moment le notaire s'aperçoit qu'il donne des consultations à des prix faramineux, donc il est chassé, bon bref. Ses parents décident de l'envoyer à Paris, et là, manque de chance, il tombe à Paris au moment de la Révolution. Et donc, ce qu'il voit, il tombe dans cette espèce de chaudière parisienne, les clubs, les barricades, tout ça. Enfin bon, bref, il est fanatisé par ça, et fanatisé aussi par les soldats qu'il voit passer. Donc là, se scelle un peu son destin. Alors, il va devenir d'abord un grand animateur, un grand orateur des clubs, où il ne cesse de... C'est un intrigant formidable, hein, très malin, très rusé. Et il va pas se démonter, il va progresser dans la carrière militaire, mais parfois même en prenant les grades sans même qu'on lui donne. Hein. C'est quelqu'un qui s'embarrasse pas de ce genre de choses. Alors la période s'y prête, effectivement, mais c'est quelqu'un qui hésite pas, effectivement, à se présenter. Il le fait un jour il veut absolument le commandement d'un bataillon, enfin d'un escadron, donc il y va, il se fait faire le plus bel uniforme, il choisit un cheval dans l'écurie, il mène les types à la manœuvre, et puis à la fin il dit « je ne suis pas encore votre commandant, mais je pourrais l'être si vous le demandez », et d'ailleurs ils le demandent tous, donc c'est vraiment quelqu'un...
Sacré culot,
un énorme culot. Alors...
Il est hussard, bien sûr.
Très important. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il se bat assez peu jusqu'en 1800, c'est-à-dire qu'il mène plutôt un peu une vie de bâton de chaise. Il accumule les dettes, il joue, il boit, il fait des fêtes incroyables. En plus, il a trouvé parmi les hussards bon nombre de compères sympathiques, dont l'un est le fameux Lassalle, qui restera son ami, et c'est lui qui intercédera auprès de Napoléon à chaque fois qu'il y aura un problème avec Fournier-Sarlevez pour le réintégrer dans l'armée. Toujours est-il que à ça se mêle sa passion du duel, puisque chaque fois que quelqu'un le provoque, eh ben, il le provoque en duel et il le tue assez régulièrement. D'ailleurs, l'histoire de Conrad est assez est vraie, puisqu'il s'est inspiré d'un écrit qui a été fait dans les années 1870 sur le duel, où on raconte ce fameux duel. Il y a eu un contrat écrit entre les deux personnages, enfin, entre ces deux officiers qui se sont battus jusqu'à la fin. Donc la carrière militaire, en fait, elle commence en 1800, en Italie, où il est remarqué par Bonaparte. C'est un sabreur redoutable, hein, qui se bat très très bien. Et en fait, l'Espagne, il va y arriver, lui, en 1809. Dès le début, dès que Napoléon arrive, en fait, donc Junot a échoué, Dupont a été battu à Bayonne, et septembre 1808, Napoléon arrive en Espagne pour remettre de l'ordre dans tout ça, et il va y rester 4 mois. Où il va reprendre Madrid, chasser les Britanniques, etc., etc. Et Fournier fait partie de l'avant-garde, il est dans la cavalerie, et on va lui confier la place forte de Lugo. Il doit garder cette place forte pendant que les troupes de Ney sont en opération contre la guérilla, et pendant que les troupes de Soult sont en train d'envahir le Portugal. On est dans les premiers mois de l'année 1809. Donc, Fournier-Sarlevez n'a aucune expérience des places fortes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui l'indiffère totalement. Lui, c'est la cavalerie, c'est les charges, le reste. Alors là, totalement insupportable pour lui. Et, manque de chance pour lui, il va être attaqué, et il va être attaqué par une armée espagnole entière. Alors lui, il dispose d'un millier d'hommes, c'est très léger. La place, elle est quasiment ouverte à tout vent. C'est pas du tout une place forte qu'on peut tenir facilement. Il y a des brèches partout. Il voit arriver près de 20 000 hommes. Et le problème, c'est qu'en plus, Ney lui a confié tous les aigles de son corps d'armée. Évidemment, perdre un aigle, un seul, c'est déjà la déchéance pour au moins 2 décennies. Donc, tous les aigles du corps d'armée de Ney, il n'en est pas question. Donc, il va opposer une résistance tout à fait remarquable aux Espagnols. Il va consolider la place. Il va même faire des sorties et les charger, ce qui va surprendre les Espagnols. Il va tenir plusieurs jours, sauf qu'il n'a pas de munitions, il n'a pas de vivres, il n'a rien. Les Espagnols, quand même, le mettent à mal la place forte. Donc, au dernier moment, il se dit, bon, on va sortir, on va faire une sortie. Et heureusement, il n'aura pas à la faire parce que les troupes de Soult remontent du Portugal et chassent le corps d'armée espagnol. Alors, tout pourrait bien se passer. Manque de chance, c'est le problème de Fournier, c'est qu'il adore les ennuis aussi. Il adore des personnages comme ça dans ce livre. J'ai trouvé plusieurs personnages qui sont perpétuellement, quand il y a la paix, quand tout pourrait bien se passer, il faut absolument qu'ils intriguent et qu'ils sèment la zizanie. Et c'est ce que Fournier sait faire le mieux en temps de paix. Et là, Soult et Ney, bon, qui ont déjà des rapports extrêmement difficiles à ce moment-là, qui manquent de se battre en duel, tous les deux, qui finissent par trouver un accord. Donc, Ney repart, Soult aussi, et Fournier s'enquiert de la correspondance de Soult, de Ney, et finit par dénoncer l'un à l'autre sur des faits militaires, enfin, disant que l'un veut prendre toutes les réserves à Lugo pour les... Bon, bref, colère des deux maréchaux, Soult écrit à Paris, 10 piques-pente de Fournier qui est relevé, et qui se retrouve en exil à Sarlat. Alors, des exils...
Qui est relevé, en plus, soi-disant, parce qu'on lui a envoyé un aide de camp.
Ah oui, alors...
Ça, c'est
oui, on lui envoie un aide de camp.
L'épisode est assez caractéristique
Lugo, on lui envoie un aide de camp, et quand l'aide de camp ouvre la porte, il lui dit...
Il l'accueille à coup de sabre.
Il l'accueille à coup de sabre. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Je ne vous ai pas demandé.
Voilà, je ne vous connais pas, vous.
Voilà, alors en plus, il est paranoïaque, il croit que c'est un espion, donc, et il le chasse à coup de sabre. Donc, alors là... C'est un peu trop, parce que déjà, son dossier s'épaissit hein, depuis
oui, on n'en a pas parlé.
Il a quand même collectionné beaucoup d'intrigues, beaucoup d'escroqueries.
Il a tenu tête à Napoléon.
Ouais, son ennemi favori, d'ailleurs, c'est Napoléon.
C'est Napoléon.
Il aura des entrevues avec lui devant témoins, où il sera à la limite de le provoquer en duel. Hein. Mais comprend bien le personnage. Les gens qu'il assassine sur le pré le matin, ça lui suffit plus. Ouais. Son véritable ennemi, c'est Napoléon. Et il aura une attitude vis-à-vis de Napoléon absolument incroyable. Et Napoléon est à chaque fois stupéfait.
Stupéfait, mais d'un autre côté, ça lui a valu presque son grade de général, puisqu'il va le réclamer directement à l'empereur.
Tout à fait.
Qui est soufflé.
Il a une façon, il a un culot phénoménal. Et puis en plus de ça, on peut penser que, comme c'est quelqu'un de très très intelligent et de très habile, on peut penser que sa violence et les choses qu'il a dites à Napoléon, c'était des choses que beaucoup n'osaient pas dire. Donc ça a peut-être joué pour lui. Et puis Napoléon, il avait un côté, il aimait beaucoup ses personnages fantasques.
Et ses hussards. La salle était le faible de Napoléon.
Voilà, il payait ses dettes, l'autre se ruinait au jeu sans arrêt, et Napoléon l'adorait. Donc, il aimait ce côté... Il en faut des personnages comme ça dans une guerre. Hein. Il y en a toujours, des personnages qui sont un peu fous, mais qui, quand il faut charger, sont là, quoi.
Donc, en 1809, Fournier et Sarlevez rentrent à Sarlat.
Il rentre à Sarlat, ou alors là, il continue sa vie, c'est encore un calvaire pour les habitants de Sarlat.
Mais finalement, en septembre 1810, il est à nouveau appelé en Espagne.
On a besoin de lui, et donc, il va être appelé dans le corps de Masséna. Alors, un très bon témoin de l'épopée de Fournier en Espagne, c'est le général Thiébault, qui est gouverneur de Salamanque, qui le voit arriver à la tête de César. Alors, c'est un très bel homme, en plus. Hein. C'est un très bel homme, vraiment. Très bel uniforme. Il est bouclé, assez grand, des yeux bleus, plutôt poupin, mais un succès auprès des femmes absolument formidable. Et Thiébault dit qu'il a reçu des ordres à son sujet, c'est-à-dire qu'à la moindre incartade, faut le mettre au trou, parce que Bessières ne supporte pas Fournier, et on sait très bien que le personnage est capable de tous les débordements. Thiébault accueille, il arrive avec ses dragons, Fournier, et Thiébault l'accueille, il raconte, il y a, pendant les mois qu'il va passer à Salamanque, toutes les facéties auxquelles va se livrer Fournier, qui vont de défoncer la porte des couvents religieuses à coups de hache, pour venir y chanter.
Oui.
Il chante, il adore
pack,
ça. Hein.
Le pack.
Alors, un pack 1810, ah, oui, il arrive tout seul dans l'église. Ça, c'est une scène qui stupéfie toute l'assistance. On voit Fournier arriver, qui a une réputation épouvantable, parce qu'il fait de la contre-guérilla de façon très sauvage. Hein, c'est quelqu'un...
Quand il
rentre dans les villages, El Demonio, il mérite son surnom, il massacre tout le monde et tout. Et il arrive dans l'église, où il réunit toute la petite société française. Alors, il faut savoir qu'elle est animée par Laure Junot, Laure d'Abrantès, hein, et qu'elle sait faire ça très très bien. Et on voit Fournier arriver, alors tout le monde se raidit en se disant quel éclat va-t-il faire, et il avance le long de la travée, entre les chaises, tout le monde le regarde, il se plante devant l'autel, et il se met à chanter tout l'office en latin, du début à la fin. Et alors là, évidemment, les gens qui assistent à ça sont stupéfaits, et il part dans un grand éclat de rire, et il s'en va. Et sa vie, ça n'est que ça, en Espagne, jusqu'à la bataille de Fuentes de Onoro, où... C'est une action d'éclat qu'il faut souligner.
Ah oui, magnifique, magnifique.
Puisqu'il va être sans doute le seul cavalier français à enfoncer un carré britannique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Fuentes de Onoro, il y a la gauche de l'armée britannique est mise en désordre par la cavalerie de Montbrun. C'est Montbrun qui commande la cavalerie, qui est un personnage, lui aussi, un de ces hussards formidables. Donc, ils n'ont pas le secours de l'artillerie de Bessières, qu'ils devaient leur prêter. Et les Anglais se transforment en trois carrés pour résister. Et il y a une charge de cavalerie. Alors, aujourd'hui, charger un carré, ça ne veut pas dire grand-chose. Britannique de surcroît. Mais il faut savoir ce que ça peut être d'avoir devant soi quatre lignes de soldats avec la baïonnette dressée et les autres qui vous attendent pour vous tirer le coup de fusil, et puis une charge comme ça à découvert. Donc, il mène la charge, la salve part, la charge est ébranlée, mais il passe sur le corps des soldats britanniques, et c'est à souligner parce que même à Waterloo, la cavalerie française n'y arrivera pas. Hein. Donc, c'est le seul épisode de l'histoire des guerres napoléoniennes où un carré anglais a pu être forcé de cette façon, et c'est Fournier et Montbrun qui en sont à l'origine.
Mais alors malheureusement, ça ne permettra pas d'emporter la...
Non, ça ne permettra pas d'emporter la victoire, puisque les Britanniques vont faire revenir de la cavalerie, bon, et les Français perdront la bataille. Donc le destin de Fournier, après, il est aussi très affaibli par ses excès, boit beaucoup, fume beaucoup. Il rentre en France et puis alors il va y avoir toute une suite encore d'événements où soit il est renvoyé à Sarlat, il fait la campagne d'Allemagne, il a encore des échanges avec Napoléon terribles. Il fait la campagne de Russie et il a à ce moment-là une conduite héroïque à la Bérézina, puisqu'il fait partie des cavaliers qui vont permettre la retraite des troupes de Victor. Donc, ses effectifs vont être divisés par 5 ou 6 dans la journée. Il sera blessé, il perdra plusieurs chevaux sous lui. Et puis arrive la campagne d'Allemagne, où là, alors là, son délire s'accentue.
C'est du n'importe quoi,
c'est
oui.
C'est devenu n'importe quoi. Il a avec Napoléon des propos, mais qui sont pas faux. Ce qu'il lui dit n'est pas faux. Il lui dit qu'il mène la France à la ruine, on peut pas dire le contraire à cette époque-là. Enfin, ça lui vaut d'être proscrit, etc., etc. Et puis...
Et destitué. Et puis la restauration.
Et puis, il retrouvera ses grades. Enfin, c'est une suite d'allers-retours absolument à l'image du personnage. Puis, ben, pendant la restauration, il obtiendra un poste d'inspecteur général de la cavalerie. Il a été, en tant que juriste aussi, l'auteur d'un code militaire célèbre. Enfin, bref. C'est quelqu'un qui va survivre à tout ça, et toujours en menant la même vie de célibataire...
Patachon,
une vie de bâton de chaise dont il mourra...
En 1827,
toujours entouré de maîtresses, de fêtes, de... Voilà, un personnage étonnant.
Étonnant.
Vraisemblablement, je pense que... pour avoir soumis le papier à un psychiatre militaire, il m'a dit que ça lui rappelait parce qu'il était capable. Ce qui est extraordinaire avec cet homme, c'est qu'il est capable de charges extraordinaires et de fuites extraordinaires. C'est-à-dire qu'à la fin de sa carrière, naît l'insulte parce qu'il a fui pendant une charge. Et le psychiatre militaire à qui j'ai posé la question m'a dit c'est exactement les définitions du syndrome post-traumatique. C'est-à-dire une capacité à aller au-devant du feu suicidaire et pour fuir les choses, de fuir carrément la situation. Donc je pense que de tout ce qu'il avait vu, il avait quand même, c'était quand même quelqu'un d'assez...
Dérangé.
Mais il en faut.
On va conclure là-dessus. Bien, François Mali, merci de nous avoir fait découvrir ce petit démon finalement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.